Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Gymnastique sonore, c'est une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute « Dans les champs de nos souvenirs », un documentaire réalisé par Nina Elbois à Cesson-Sévigné. Et on en parle après, dans une table ronde, pour revenir sur la résidence à l'origine du documentaire, un an après.
Ça, j'ai pas écouté depuis si longtemps.
Tous les jours, donc, avant toute chose, avant même d'ouvrir les volets et de faire ma toilette, et de prendre mon petit déjeuner, et je me fais un petit peu de musique pour me remettre en condition.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là.
Et maintenant, je chante tout le temps, mais pas ici, mais à la chorale, dans le couloir, je chante.
C'est magnifique.
Moi, sans la musique, je ne peux pas vivre. Journée, vous voyez, où j'écoute pas de la musique, pour moi, c'est une journée fichue. Si je m'ennuie, ou bien si j'ai du souci, si j'ai... Hop, je danse.
Oh là là là, mais c'est magnifique.
Moi, je chantais du matin au soir. Je me balayais, je chantais. Je faisais mes légumes, la soupe, je chantais. En passant l'aspirateur, je chantais. La douche, je chantais. Ça, c'est normal. On chante toujours sous la douche.
Dans quelles chansons se sont faufilés les souvenirs de Gisèle, d'Hubert, de Germaine, de Céline et de leurs compagnons de route? Ils ont entre 60 et 100 ans et vivent ensemble dans une résidence autonome. Leurs souvenirs musicaux témoignent d'une époque où l'écoute et la diffusion de la musique étaient nouveaux et sacrés.
Oh là, mon amante.
Dans les champs de nos souvenirs, un documentaire de Nina Elbois.
Ma canzone a ce soir.
On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron vous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. On n'a pas tous les jours 20 ans.
Bon, moi j'ai 75 ans, mais alors, l'année de mes 20 ans, on était toute une bande de la même année. On a fait alors, une nuit entière. Oh, alors là, ça a été dur. C'est vrai que c'est ma première nuit où j'avais pu sortir avec les copains et copines, mais bon. Après, on l'a plus refait, quoi. J'étais dans un café, mais c'était la boum toute la nuit, hein. On faisait un peu les foufous, quoi, c'est tout, quoi.
J'avais 15-18 ans, quand il faisait pas très beau. Avec tous les amis, l'été, nous allions dans on appelait ça le café de la gare. Et il y avait un jukebox. Le seul disque vinyle 45 tours qu'il y avait, c'était l'enregistrement de concerto numéro 1 de piano. Alors moi, je ne mettais que celui-là. Et puis, un jour, il y a l'épouse des propriétaires de l'hôtel, parce que c'était aussi restaurant, qui est venue écouter et qui nous a demandé ce que c'était que cette belle musique-là. Elle appréciait si bien que quand on retournait et qu'elle était là, elle me disait « Je peux vous mettre le concerto numéro 1 de Tchaïkovski ?»
Ce qui se faisait avant et qui ne se fait plus maintenant, c'était ce qu'on appelait les sauteries. Vous les avez connues aussi. Ça s'appelait une sauterie quand c'était un thé dansant l'après-midi. C'était ça, une sauterie.
J'aimais beaucoup danser aussi. Quand j'étais gamine, mes parents faisaient partie d'un cercle, l'Orphéon, et ils venaient des troupes de théâtre amateurs, ça, et ça finissait. La soirée, ils mettaient à des disques, et la sauterie qu'ils appelaient. Donc j'ai toujours vu danser, j'ai vu danser ma sœur qui avait 7 ou 7 ans de plus que moi, j'ai vu. Et comme j'ai certainement le sens du rythme, j'ai su danser, quoi, sans apprendre.
Autrefois, dans ma jeunesse, nous, on n'allait pas beaucoup au bal, mais on faisait des booms entre copains et copines dans les fermes. Bon, parce qu'il n'y avait pas de salle, hein, dans les fermes, dans une grange, vous voyez, un peu. Mais que le dimanche après-midi, on n'avait pas le droit de rentrer à 18h le soir, pas plus après. Hein, après, on était punis.
Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu le droit d'aller dans la commune à mon premier bal. Et là, les orchestres, c'était un orchestre de la région, hein. Les orchestres étaient dans un rayon de 25 km à peu près. Ben, parce qu'avant, c'était surtout l'accordéon, hein. Mais il commençait à y avoir des morceaux de jazz à la clarinette, batterie, et puis tout. Alors ça, c'était super, hein. Si vous voulez, le jazz, moi je l'ai découvert, j'avais 15-16 ans, parce que dans la commune où j'habitais à l'époque, dans une petite commune, hein, le vieux marché, il y avait à l'époque à peu près 2000 habitants. Hein. C'était les années 57, 58, 60. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes de mon âge qui habitaient... Paris, qui habitait même à Rouen, qui habitait les grandes villes. Et ils venaient en vacances pendant 2 mois, soit chez les grands-parents, soit chez un oncle et une tante. Donc ils avaient formé un petit orchestre. Ils s'entraînaient aussi le matin et le soir, on avait des petits concerts, quoi. Étaient vraiment branchés déjà sur le jazz. Et ils avaient un tourne-disque avec un certain nombre de 45 tours de jazz, d'enregistrement de jazz, qui nous ont fait écouter et on a appris ça par cœur, quoi. Avec les, vous savez, les bandes qu'il y avait à l'époque. On s'amusait à faire des enregistrements aussi. Certains enregistrements, les églises n'étaient pas fermées comme c'est maintenant. Comme il y a une bonne acoustique dans les églises, on allait enregistrer dans les églises le dimanche après-midi. Vous savez, tous ces enregistrements-là, moi, je ne les ai plus. Hein. C'était ces fameux premiers magnétophones avec les bandes là, qui cassaient de temps en temps. Bon, ben, il y a longtemps que ça a disparu.
À l'époque, il y avait bien sûr le tourne-disque. Et encore, je n'ai pas eu... dans ma toute jeune enfance, puisque mes parents étaient très modestes, mon père était cheminot, il avait des petits moyens. Et donc, la musique, on ne la détestait pas, mais on ne l'écoutait pas à foison, parce que ce n'était pas le genre de l'époque. Bon, j'ai dépassé les 90 ans, bien sûr, vous le savez peut-être aussi. À l'époque, la télévision servait, et même la radio, servait à écouter les événements de la guerre quand on était adolescent. Moi, je me rappelle que mon père avait un poste, non pas clandestin, mais un poste TSF, comme on disait. Et il avait fait bricoler par un technicien plus ou moins bricoleur pour obtenir les ondes courtes, pour écouter ce qui se passait pendant la guerre. On était en Algérie, on écoutait ces radios clandestines. On n'avait pas l'occupation allemande, hein, mais on avait le système vichysois. Hein, c'était Vichy. Mon père se cachait pour écouter les informations, surtout que mon fils était mon frère, était, donc son fils était à la guerre à ce moment-là. On aimait savoir la vérité parce que les radios étaient brouillées. Je me rappelle, il y avait des pendant les informations. Et c'était des postes clandestins qui étaient, je ne sais pas où, de quelque part en métropole, qui mettait en cachette, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on n'a pas été porté sur les variétés, si on peut dire. On en a eu d'autres chats fouettés, voilà, si on peut dire.
Des chansons que mon père aimait bien entendre, c'était Luis Mariano qui l'aimait beaucoup, et Tino Rossi. J'ai appris avec lui, comme ça, et... Mais on n'avait pas de musique. Il n'y avait pas de poste, il n'y avait rien. On allait sur le boulevard de la Liberté, le jour de la foire exposition qu'il y avait à Rennes. Ils vendaient les chansons qui chantaient, quoi, c'est tout. Puis on écoutait les chanteurs qu'il y avait sur le boulevard qui chantaient. Ils avaient l'accordéon, ils avaient tout, hein. Mais on connaissait que l'accordéon à ce moment-là.
Par les nuits chaudes autour de moi, sans cesse rôde le souvenir d'autrefois. Et tout mon cœur, mon pauvre cœur.
J'ai pu fondonner tout ça depuis très longtemps, alors je ne me souviens plus, c'est tout.
De guitare au chant si doux.
Oh mon, elle était amoureuse de Luis Mariano, elle aurait voulu se marier avec. Aïe, 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 elle s'est mariée avec mon père, elle se dit, si j'avais su, je me serais mariée avec Luis Mariano, ça aurait été mieux, peut-être beaucoup mieux.
Elle disait ça?
Ah oui, mon maman me disait ça. Oui.
Je vous raconte aussi quand j'étais à la maison chez mes parents, une fois on attelait un baptême et on chantait dans la rue. On chante à tue-tête, n'importe quoi. Je cherche une chanson. Je vois les grands sombreros et les pantilleux, les ersirènes de Fontainebleau et c'est que Dieu. J'ai cette chanson-là et je ne peux pas la retrouver. Je ne sais pas, je ne connais pas bien les paroles.
Je revois les grands sombreros et les mantilleux. J'entends les airs de fandangos et ségudilleux. Que chantent les señoritas si brunes quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne. J'ai vu toute l'Andalousie
n'aimait pas trop la musique, alors si c'était son poste, et écouter les informations au moment des repas. Il ne fallait rien dire pendant le repas parce que c'était les informations. Après, j'ai eu mon premier transistor qui était à moi, mais il me le prenait tout le temps. Dès que j'avais un petit peu de sous en plus, ben je m'achetais un disque au lieu de m'acheter des bonbons. J'ai tout gardé. Mais j'en ai peut-être 10 en tout, c'est tout. Hein. Mais moi, c'est des souvenirs de ma jeunesse et je ne vais pas m'en débarrasser. Bon, après, ce sera les neveux et nièces. Est-ce qu'ils seront intéressés? Peut-être, on ne sait jamais.
Là, dans cette valise où il y a 8, 10, 30 cassettes audio, j'ai tous les chanteurs des époques de 50, 60, 70. Il y en a des chouettes. Hein. Tino Rossi, Herbert Léonard, tout ça, c'était des chantons de rêve. Claude Barbotin. Les tubes du thé dansant de l'an 2000.
Il y avait encore des thés dansants en l'an 2000 ?
Oh oui, sûrement, mais il faut regarder sur Internet. Il faut être jeune.
Ah, ça vient de chez mes parents, ça. Oh, c'est vieux. C'est vieux. Si ça se trouve, ça date d'avant-guerre. Poney dedans, ça fait son poids. Hein. C'est pas du vinyle. Hein. Ah ben oui, dans le grenier, chez mes parents, il y avait ça. Et puis, il y avait le tourne-disque, comme on disait à l'époque, qu'on remontait avec une manivelle. Dans le grenier chez mes parents, j'ai même trouvé des disques 78 tours et je crois que c'était 81 ou 82 tours. Et il y avait quelques disques, c'était du disque, je crois, en cire. Et ben, nous, on n'avait pas le droit d'y toucher hein, parce que ça venait de la famille de mon père. Bon, et puis quand mon père est décédé, nous étions jeunes, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, un jour, on n'avait pas le droit d'aller au grenier sans la présence de mon père, surtout. Les enfants aiment bien les greniers, hein. Il y a plein de vêtements pour se déguiser, et puis il y a des vieilles valises pleines de trésors, des vieilles malles, des trucs. Et puis bon, il y avait aussi le tourne-disque avec la... cette grande corne là, je sais plus. Alors bon, c'est moi qui avais monté en premier, puis après mon frère qui avait 3 ans de moins que moi, il est venu aussi. Et puis bon, moi, je mettais un disque et je l'écoutais. Mais lui, hop, il avait entendu un peu, ça devait pas lui plaire beaucoup. Il fallait changer rapidement de disque. Et puis ce qui est arrivé, quand je voulais pas, il attrapait des disques et puis il les jetait à travers le grenier comme ça. Il y en a eu une quantité qui ont été... c'était fini, c'était mort, quoi. Ah, moi, j'étais fâchée. Hein. Ah, j'étais fâchée parce que j'aurais voulu toujours garder ces enregistrements-là. À Mistinguette. Ah, il y avait des disques de Mistinguette. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Dans le grenier, chez mes parents.
De chaque coin monte un refrain, tour à tour canaille et câlin. Au fond des bistrots enfumés, on voit tous les couples valser. Et quelle est donc cette chanson qu'on prend à l'unisson? C'est une valse musette au son de l'accordéon. On la danse dans les guinguettes et même dans les salons. Qu'est-ce qui fait tourner les têtes aux filles comme aux garçons? C'est une valse musette au son de l'accordéon.
Chaque fête, il fallait qu'il y ait de la musique. Hein. S'il n'y avait pas de la musique, c'était « Ouh là là, ça va pas du tout ». Et si bien que je me souviens très bien, c'était le baptême de mon deuxième frère. Et le papa, il était tellement content pour tout ça, il avait des invités, tout le bazar. Et il a fait venir un orchestre. Alors là, qu'est-ce qu'on s'est amusé jusqu'à 14 du matin? Et bien, dis donc, pour le mariage de ma cousine aussi, on a dansé aussi, mon papa, il m'a appris à jouer, à danser le tango.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que mon cœur a choisi. Il y a bien d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur a choisi celui-là.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras.
Il est si tendre, il est si câlin, rien qu'un enfant.
Bon, j'aime toutes les musiques, y compris le rock'n'roll, mais je ne sais pas le danser. C'est la seule danse que j'ai jamais réussi à danser correctement. Mais avec ma femme, je dansais le tango et la valse régulièrement. Ça, je l'ai raté pratiquement jamais. Et j'ose dire que ma femme et moi-même étions de bons danseurs. Voilà. Ma femme aussi aimait chose, quoi, la valse et le tango, parce que c'était nos musiques préférées. Ma femme ne dansait pas beaucoup avec d'autres, elle dansait qu'avec moi. Il faut dire que c'est parce que j'allais la chercher avant que les autres arrivent. Et oui, on faisait des concours de danse, on les gagnait quelques fois. Donc on faisait les valses et les tangos, là on n'en ratait aucun. Et puis les danses languissantes, la musique d'amour, voilà, j'aimais beaucoup ça.
Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, je ne me lasserai de l'entendre.
Et quand mon mari est décédé, un an après, je suis venue ici. Alors là, c'était l'extase, le triomphe. J'ai pris l'activité. Le choral, ma pauvre petite. J'étais heureuse de m'en redonner. Je ne sais pas quoi, je ne pouvais pas être si heureuse. Je me suis mise à chanter. Et je chante tout le temps maintenant. Mais entre-temps, j'ai oublié de vous dire le principal, j'ai connu ici un monsieur. Et nous sommes devenus vraiment, on était vraiment plus que des compagnons. Et lui, par hasard, il chantait très bien. Alors, il s'appelle Albert, et tout d'un coup, Albert me dit, mais tu chantes bien? Ben, je dis, oui, mais toi aussi. Il me dit, ben, écoute, si on faisait tous les deux, si on chantait ensemble, eh ben oui. Pendant, il a vécu 4 ans, quoi. On a chanté au choral, au fête qu'on avait ici, on chantait tous les deux. Ma pauvre petite, c'était formidable. On s'entendait tellement bien. Alors, on formait tous les deux, les gens rigolaient parce qu'on s'embrassait. On était bien, quoi, puis un point final, puis voilà. On n'en chantait que des belles chansons tous les deux. C'était formidable. Tout le monde nous applaudissait à toutes les fêtes. On avait même le maire qui venait. Et puis, on faisait les fous. Et quand il est parti, j'ai chanté la chanson et... Il s'effuirait d'un jour pour être heureux, j'y suis. Et puis je me suis reprise. Et puis j'ai continué à chanter parce que je dis là-haut, il m'entend, il doit être content.
Oh mon amour, j'ai beau savoir mon trésor que tu m'aimes de tout ton cœur. Il est des soirs où je doute quand même, où j'ai bien peur. Je crains toujours qu'un autre amour t'emporte. Et sans tarder, je me dis tout bas, serais-je assez forte pour te garder? Je me fais dans tes bras si petit, si petit auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand je vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement. Je me fais dans tes bras si petit, oh mon amour.
C'était mon mari qui achetait les disques, mais après, du jour qu'il a été malade, on n'a plus fait, quoi. Parce que il ne pouvait plus, le pauvre. Non, fallait pas que je mette de la musique, surtout. Ça le fatiguait. Mais oui, c'est normal.
On ne se rend pas compte, mais quand on a quelqu'un de malade, faut faire attention, quoi. Hein? Ben oui. Mais bon, tant qu'on a pu, et puis on allait au bal aussi. À ce moment-là, on dansait. Ben oui. On a bien fait d'en profiter.
Et je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup la chanson que j'aime. C'est le chant du gardien, c'est le chant de mon mari.
C'est le chant du gardien.
Il a toujours chanté. Mais il ne chantait pas d'autres chansons. Hein. Si, avec les autres, des chansons, il les chantait. Mais tout seul, c'était sa chanson. Et quand il a chanté toujours avec un papier dans les mains. Il avait peur d'oublier quelque chose. Et il y arrivait, mais il riait à la fin parce que tout le monde le faisait rire. Hein. Mais ce qu'il y a eu, eh ben, ils m'ont fait une surprise aux obsèques de mon mari. Ils ont été demandé aux célébrants si on pouvait mettre le chant du gardien. Il a dit, ça se fait pas, mais pour Marcel, je le fais. Vous mettrez le refrain et un couplet. Ça m'a transi de partout, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est resté marqué. J'ai rencontré des gens après. Ils m'ont dit, c'est pas possible. On entendait à l'église, on entendait Marcel chanter à l'église. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de baume au cœur. C'est des beaux souvenirs, c'est dur, mais j'ai apprécié beaucoup. Quelquefois, il en chante, les enfants, mais incroyable. Et puis, il dit, on va faire du mal à Marie, mais elle est contente de l'entendre.
Les chants des hommes sont plus beaux que même, plus lourds d'espoir. Plus triste, plus durable, plus que les hommes, j'ai aimé leur chant. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée. Jamais au chant que j'ai chanté pour elle, jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien en ce monde de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien, rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants des hommes.
C'est grâce à lui que j'ai essayé.
C'est grâce à ton frère que tu es venu ici.
Oui.
C'est ça. Après ton accident, c'était un accident ou c'était une maladie?
Un syndrome Parkinson. Ouais. La maladie de Parkinson.
Ah, c'est la maladie de Parkinson qui est arrivée comme ça.
Ouais, comme ça d'un coup.
T'avais quel âge?
J'avais bien 58, 59. Non. C'est que j'avais essayé. L'année dernière, le mois d'octobre au mois de janvier, j'étais à l'hôpital pour mes crises d'angoisse. Et maintenant, ça va mieux de ce côté-là aussi. De temps en temps, quand j'étais malade, j'ai des crises d'angoisse, le soir, le matin, je chantais dans ma tête.
Tu avais des crises d'angoisse avant d'aller à l'hôpital et donc tu chantais des chansons dans ta tête pour arrêter l'angoisse? Et tu te souviens des chansons que tu chantais?
Il y a beaucoup de chansons, d'ailleurs.
Il y avait aussi la fugue de si je veux faire rester, c'est toi-même, mais on aimait quand même. La photographe, qu'on est tous les trois. C'était Malabie, elle était ici. La photographe, qu'on est tous les trois.
Tu la connais depuis longtemps?
Oui.
De quand tu étais petite?
Non. J'apprenais ici. Puisque ma première pointe, tout ça, c'est une chanson de chorale.
Allez, on y va, on refait. La la la, 3, 4. La la la.
Dans la paix et l'amitié.
Merci à toutes les personnes de la résidence autonome de Cesson-Sévigné de m'avoir confié vos souvenirs. Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de la résidence Transat des ateliers Médicis.
Vous venez d'entendre « Dans les champs de nos souvenirs » de Nina Elbois. On se téléporte dans une salle de la résidence d'automne avec...
Émilienne.
Gisèle.
Christiane.
Pierre.
Marie-Claire.
Maria.
Philippe.
Nina.
Janine. J-A-N-I-M-E. Tout simple.
Est-ce qu'on peut repartir de la genèse du projet et comment ça s'est passé, le contact avec, avec la résidence d'automne?
Alors la genèse de ce documentaire, c'est une résidence organisée par les ateliers Médicis et ils ont un programme de résidence qui s'appelle Transat et qui est dédié aux artistes émergents dans lequel il y a une catégorie création sonore. Et donc j'avais postulé en mars-avril 2023 et quelques mois plus tard j'ai reçu la réponse comme quoi c'était... accepté. Et l'objectif de ces résidences est de mettre en contact des artistes émergents avec des structures du champ social. Et donc j'avais déjà en fait une émission qui s'appelle Raconte-moi ton vinyle, avec l'idée d'écrire une histoire de la musique qui n'est pas qui soit pas racontée par des experts, mais par toutes celles et ceux qui écoutent la musique à travers le prisme des émotions et des souvenirs que chacun a pu vivre sur telle ou telle chanson. Et donc, en faisant ce projet, au début, c'est vrai que je me suis dit, ah tiens, je vais aller interviewer des gens qui travaillent le vinyle. Et en fait, c'était le vinyle qui m'intéressait parce que la pochette, l'objet rappelle des souvenirs. Et donc pour cette émission, j'allais directement chez les personnes, les interviewer dans leur espace, devant leur vinylothèque, etc. Et après, je me suis aperçu que finalement, il y a certaines personnes qui avaient envie de montrer leur expertise musicale, qui n'était pas du tout ce que je recherchais, en fait. Donc après, bon, je me suis réorienté dans les personnes que je contactais. Et c'est là aussi où je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes âgées parce que je veux m'éloigner du côté hype du vinyle, en fait. Et c'est sur la base de ce projet-là que j'ai fait ma proposition aux ateliers Médicis. Et le projet a plu à Philippe, qui à l'époque s'occupait de la résidence d'automne. Et donc, que toi, tu as été contacté par les ateliers Médicis.
Alors, donc, je crois qu'on a été contacté par les ateliers Médicis et qu'ils nous ont donné le projet à l'époque. Et puis, quand on a vu le projet, on avait aussi, nous, la chance, c'est d'avoir plein de vinyles. On avait eu un don d'une résidente qui était là, qui dormait aussi dans les sous-sols de la résidence. Et donc, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est de les faire vivre aussi, ces vinyles. Et puis, je pense qu'à l'époque, ça correspondait bien aux attentes des résidents qui étaient à la résidence. On parlait beaucoup de musique, on chantait. Et puis, voilà. Donc, aussi, le projet s'est fait avec les résidents. Genre, on en a parlé. On dit, voilà, est-ce que vous seriez intéressés? Et puis, la direction, bien entendu. Et puis, on s'est dit, c'est le bon moment de se lancer dans ce projet. Mois de juillet, c'est un mois de, voilà, qui est un peu plus calme, où les familles souvent sont parties. Et bien donc l'idée c'était de pouvoir se retrouver et avec Nina. Et je veux dire que ça a pris tout de suite, le projet est parti très très vite avec des moments qui ont été extraordinaires aussi dans les rencontres. Et vraiment la résidence a été, ça a été un bon moment à la résidence d'automne, quoi.
Parce que je logeais ici en fait. Au début, je devais loger juste une semaine et je m'étais dit bon, je vais quand même louer un appart, sous-louer un appart à Rennes parce que bon, vivre ici en résidence autonome pendant 3 semaines, peut-être que c'est pas fun fun. Et j'avais jamais travaillé avec des personnes âgées. Et au final, au bout d'une semaine, j'ai réservé la chambre et je voulais juste rester ici plutôt qu'aller à Rennes parce que c'était super convivial. J'adorais en fait. Et puis voilà, être au contact de toutes les personnes, c'était l'aventure humaine, quoi.
Comment est-ce que l'atelier il a évolué au fur et à mesure et comment vous avez commencé à raconter vos histoires à vous ?
Philippe nous a présenté le travail à faire. Petit à petit, il nous a posé quelques questions. On est devenu très bien, ça allait. Et puis, ça nous a permis également, surtout, de revenir en arrière, des souvenirs de jeunesse, et puis des souvenirs maintenant également. C'était formidable. Toutes les semaines, on avait une réunion avec Philippe et Nina. On adorait ça, on attendait toujours ce jour-là. Et puis, on pouvait avoir la parole, c'était formidable. Alors, autrement, pour Nina, je la remercie beaucoup. C'est pas quelqu'un n'importe qui, pour moi c'est une amie, elle le sait très bien. Merci à vous Philippe et merci Nina. J'ai vécu des moments formidables. Merci beaucoup.
Et vous avez fait des booms pendant les 3 semaines ?
Non, on a chanté quand même, c'était pas mal. On a beaucoup chanté. Oui, oui, on a beaucoup chanté. Et moi c'est ce qu'il me faut, alors c'était bien.
On a quand même un petit peu commencé par une boum, parce que le premier jour où je suis arrivé, j'avais ramené la platine vinyle, on a sorti les disques, et moi j'ai des souvenirs et encore les vidéos où certaines se sont mis à danser, et j'ai vite compris qu'il en fallait pas beaucoup pour que vous vous mettiez à danser. Et ça, c'était vraiment le premier atelier où chacun choisissait ses disques, replongeait dans les souvenirs, et il y avait une folle ambiance quand même.
Je rajouterais ce qui avait été sympa à ce moment-là, on avait mis des vinyles partout dans la salle, et je me souviens, les résidents, bon, au début, étaient un peu timides pour aller chercher le vinyle. Bon, on va chercher un vinyle, et puis voilà, ils choisissaient un vinyle, une chanson, et puis soudain, voilà, et d'une chanson, il y avait toujours une histoire qui en découlait, et c'est ça qui était chouette, et on racontait cette histoire. Hein, donc où chacun, par exemple quand on parlait de Tino Rossi par exemple, oui. Tino Rossi c'était une histoire, hein, mais c'était aussi de replonger dans, comme dit Gisèle, dans les souvenirs avec vos parents. Mes parents écoutaient ça. Et là, on a parlé, on parlait aussi de l'électrophone, hein, et on a pu aussi parler de toute cette histoire de l'évolution du transistor. Hein, le poste, oui. Hein, donc voilà, et comme le disait très bien Monsieur Guédan, Hubert, qui lui raconte cette histoire, qui essayait d'aller chercher des antennes où on diffusait de la musique, parce qu'il adorait écouter la musique, et c'était un grand moment aussi de où chacun pouvait témoigner de ce qu'il était. Mais alors, c'était très amusant de voir comment tout le monde s'est déplacé. D'un coup, c'était comme une fourmilière. Hop, je prenais un disque, hop, on l'écoutait, on en reprenait un autre, on racontait une histoire. Et c'est vraiment, ça a été vraiment une très, très grande richesse aussi, ce moment-là.
Dans la musique, je ne suis pas la plus forte dans les chansons, ni rien du tout, mais j'aimais bien écouter quand même. Où j'aimais beaucoup, c'est l'écriture sur les poèmes. Là, ça me plaisait énormément.
Donc il y avait des ateliers rien que de ça.
Il y a eu des ateliers écriture et où on a écrit des poèmes. Moi c'était mon plus fort, quoi. Sur le théâtre, sur le rêve, je me souviens plus trop bien.
Et est-ce que en dehors des, est-ce que ça t'a, je sais pas si on se tutoie ou on se voit, mais est-ce que ça t'a donné envie d'écrire
un peu sur les pièces de théâtre par exemple. Moi ici j'ai fait 2 années de théâtre. bon, c'est vrai que ça nous apporte quand même un bien-être. Une force que j'avais plus. Une timidité qu'on m'a enlevée avec ça, quoi. Je suis plus facile à parler avec quelqu'un qu'avant.
Et au-delà du documentaire qui existe pour diffuser à la radio ou sur les plateformes, donc il y a eu un spectacle, c'est ça ?
On a fait une scène ouverte.
Ah oui.
Parce qu'effectivement, donc les moments d'enregistrement, d'entretien, je les menais avec une seule personne à la fois, directement chez la personne. Et entre-temps, on faisait des ateliers. Donc effectivement, on a fait des ateliers de poésie orale, des ateliers d'écoute en fait de poésie orale et des ateliers d'écriture. Et l'idée, c'était d'organiser une scène ouverte où chacun était libre de venir exprimer ses talents. Et c'est vrai que c'était marrant parce que on a fait des ateliers, mais je n'avais pas préparé la scène ouverte, à part dire à chacun, venez vendredi après-midi et venez avec un texte, une chanson, votre harmonica, enfin, votre talent, ce que vous voulez, et partagez un bout de vous, comme dans une scène ouverte. Et c'est ce qu'on a fait le dernier jour, et ça, c'était assez festif, parce que tout le monde a joué le jeu sans justement se préparer à l'avance. Et tout le monde finalement, chacun son tour, est venu sur scène partager sa chanson, son texte, son poème.
Et parmi vous, il y a des personnes qui sont allées sur la scène ouverte pour proposer des choses. Et qu'est-ce que vous avez proposé ?
Moi, j'ai beaucoup aimé l'entretien déjà avec Nina. J'en ai raconté beaucoup plus qu'il le fallait, je suppose. C'est vrai. Et puis donc, j'ai récité un poème. Et puis, j'écoutais beaucoup de musique aussi avec mes parents. Voilà, quand j'étais très jeune. À la TSF, comme on disait. C'était la TSF à cette époque-là, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Le titre, ah oui, c'était... Mais c'est pas grave, j'ai mon cahier, là, de toute façon. J'ai apporté mon cahier. J'en ai tellement que...
Et est-ce que, en attendant...
Ah oui, c'était... C'était le père et la fille, voilà, c'était ça que j'avais récité. Voilà. J'aimais beaucoup, parce que c'est l'histoire d'une petite fille avec son papa, donc voilà. Ça me rappelait de jolis souvenirs aussi. Voilà. Alors, je vous remercie.
Est-ce que tu veux lire le
poème au micro ? Est-ce que tu veux lire le...
Comment ?
Tu veux lire le poème au micro ?
J'ai pas compris.
Est-ce que tu veux lire le poème au micro ?
Tenir, le réciter,
ouais,
ah avec plaisir alors. Ah, j'ai pas pris mes bonnes lunettes aussi, je vais pas y arriver. Alors, le père et la fille, elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait, bonjour mon petit père, prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait, comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'elle avait tracée. Et maintes pages blanches, entre ses mains froissées, ou je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Voilà, donc Victor Hugo, voilà.
Merci.
On avait fait atelier poésie orale, mais c'est surtout de l'écoute. Puisque moi j'ai une appétence pour la poésie, mais j'ai bien réalisé que elle est aussi. Et donc en fait j'ai beaucoup de playlists. Moi je passe beaucoup de temps à chercher des poèmes mis en musique. Donc ça permet d'écouter, de se plonger, d'être un petit peu transporté dans la poésie pendant un temps. Et ensuite, après, on a fait des ateliers d'écriture plus libres avec des consignes, mais sans pression sur le format poésie, pas poésie. Ça, l'important, c'est d'écrire, c'est de se faire plaisir.
Je rajouterais quelque chose. Je pense que aussi, ce qui a été bien dans ce temps pour Nina, c'est d'avoir pu vivre à la résidence d'automne d'être en immersion complète à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'horaire. Quoi. Alors en plus, c'était l'été, donc le soir, ben, souvent, les gens pouvaient se retrouver même dans le patio ou dans le couloir et parlaient et se retrouvaient. Et il y avait comme une... Alors Nina a pu amener cette... Parce que je pense qu'il faut aussi amener cette confiance avec les résidents pour aller dans les confidences. Et beaucoup de résidents se sont confiés et ont parlé de l'importance de la musique dans leur vie. Hein, quand on en revient à cette musique, de l'importance de la musique. Et je vois Janine qui est là, qui, elle, parle de l'importance de la musique dans votre vie. C'est important, la musique, dans votre vie. Vous voulez en parler ?
Oui, bon... Quand je vous le dis, je ne suis pas bien réveillée encore. Vous me demandiez...
Quand Nina est venue vous voir dans votre appartement, vous lui avez parlé de l'importance de la musique dans votre vie.
Ben, j'ai commencé très jeune, parce que j'avais déjà une tante qui était professeure de musique, et j'ai toujours aimé chanter. J'avais peut-être 3-4 ans, chanter « J'ai deux amours, mon papa, pas maman ». Je crois que j'ai toujours aimé chanter. Et je crois que si je ne m'étais pas mariée, mon professeur de musique voulait m'emmener, que j'aille au conservatoire à Lille d'ailleurs. Et je crois que j'aurais aimé faire ça. Bon, c'était un peu... Et je chantais du matin au soir. Là, je vous aurais cassé les oreilles tout le temps. Et malheureusement, je ne le fais plus. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais je me levais, je chantais, j'ai toujours aimé chanter. Mon père chantait. Et je ne sais pas, je chante beaucoup moins maintenant d'ailleurs. Pourtant, je ne suis pas malheureuse ici, je me plais beaucoup. On a une bonne ambiance, et c'est vrai, la maison est agréable. Enfin, je crois que vous êtes de mon avis. Mais c'est vrai que je chante. Je chantais du matin au soir.
Est-ce que vous pouvez nous en chanter un petit bout ?
Alors, j'ai deux amours déjà. Je viens de me lever. Je n'ai même pas vu de monter. C'est rouillé. J'ai deux amours. Mon papa, ma maman, je sais vous dire. Mon pays est Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Mais bon, c'est rouillé.
Si je peux me permettre d'ajouter, le goût de la chanson, il a aussi été entretenu par la chorale. Donc, je sais que Philippe, tu animais la chorale tous les vendredis. Et très tôt, j'ai compris l'importance de la chorale pour tous les résidents qui auraient pour rien au monde manqué la chorale. Ils n'auraient surtout pas calé une interview le vendredi après-midi. Hein. Alors là, parce que. Donc, je ne sais pas si vous continuez la chorale encore.
Alors, je dirais que la chorale à la résidence d'automne a pris toute son importance aussi. Les résidents avaient aussi donné le choix de leur chanson, le choix de ce qu'ils avaient envie de et c'était pas imposé, ils étaient participants et ils avaient envie de chanter. Donc, on était là pour construire quelque chose ensemble et de chanter quelque chose qui faisait du bien. Et à chaque fois, je me souviens quand on se retrouvait là, il y avait la chorale, mais il y avait ce temps de convivialité qui tournait autour de cette chorale. On rigolait, on parlait, on chantait, on racontait des histoires, on buvait un coup. Et on était même arrivé à fêter les anniversaires, quoi. Alors, je trouvais ça génial, la dame qui disait « Ah ben, c'est mon anniversaire, là, vendredi prochain, c'est moi qui amène les gâteaux, c'est moi qui amène le... » Mais je pense que la musique, la chanson a fait que ce soit comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rebondi sur le projet de Nina. Et Nina était la personne qu'il fallait au moment où il fallait, qui a permis aussi de voir raconter des histoires.
où je vois Pierre, par exemple, qui nous raconte son histoire avec ses cassettes, l'arrivée du jazz, l'arrivée de l'accordéon, l'après-guerre, hein, parce que vous êtes cette génération. Et là, je me suis dit, à travers ce podcast, j'ai vu toute l'évolution de la musique. Et Marie-Claire qui nous parle des booms. Alors, je dis, ah, les booms, voilà, et je trouvais ça génial. Tout de suite, j'ai vu les Beatles. Moi, je dis, ah, les Beatles, tout ça. Alors, je disais, quelle chance d'avoir connu cette époque-là. Hein, parce que j'aurais tant voulu connaître Woodstock, moi. Donc, mais je trouvais ça génial de raconter ces histoires. Et à travers la chorale, ben voilà, on chantait des chants qui vous ont fait plaisir, mais des chants qui ont appartenu à des gens qui étaient. Je me souviens de cette dame, je pense à elle, parce que je pense à Marie, par exemple, qui chantait le chant du gardien. Vous vous souvenez du chant du gardien ? Quand dans le podcast, elle le raconte, Marie, elle raconte avec une belle émotion. Et donc, on est arrivé dans des émotions. Mais ça, c'est Nina qui est allée les chercher. Hein.
Mais là, en plus, c'était assez drôle, puisque Marie, au début, elle ne voulait pas participer au projet. Donc, OK, pas de souci. Et puis, après avoir passé quelques jours, quelques ateliers, etc., un jour, je passe dans le couloir, elle me dit « Bon, je veux bien participer, j'ai une histoire, mais une seule. » Et là, c'était l'interview la plus courte. Et d'habitude, pour chacun, je suis resté une demi-journée. Alors, on n'a pas fait que parler musique. Alors que là, avec Marie, je suis arrivé, elle m'a raconté son histoire. Et voilà, c'était que celle-ci. Elle était effectivement magnifique. Et ce qui était beau, c'était que tout le monde connaissait son histoire aussi. Et donc, à chaque chorale, quand il y avait le chant du gardien, bah, finalement, tout le monde pensait à Marie, en fait. Et ça, c'était hyper émouvant.
Moi, je dois remercier Nina. J'aimais pas beaucoup la musique, mais j'avais une chaîne chez moi qui n'était mal branchée de mon déménagement, qui était restée dans un petit coin. Quand Nina est venue m'interviewer, je me suis permise de lui demander si elle pouvait me brancher ma chaîne. Merci Nina, c'était super, je m'en sers de temps en temps.
Et Pierre peut-être ou Maria ?
La musique m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé la musique qui m'a mené toute la vie durant à toutes les époques que j'ai connues à partir des années 60. J'ai collectionné dans ma mallette, j'ai toujours 50 ans maintenant, à l'heure actuelle, malgré mon âge, j'ai toujours ma collection de cassettes dans une mallette, hein, bien rangée, et ces cassettes me servait un peu partout, avec mon autoradio, dans la voiture, avec les amis, et aimant la musique, j'ai toujours aimé la musique, j'ai pris des cours de danse, hein, j'ai continué cette continuation de musique, où j'ai été pendant 10 ans à apprendre la danse de salon. Et c'est avec Madame Anne Régent d'Aucourt qui m'a appris avec ma femme la musique de salon. Donc toutes les danses, et au moins 10 danses que j'ai fait pendant 10 ans. Hein, et ensuite, j'allais avec Madame au thé dansant. Oui, oui, quand vous êtes venu, là on a été dans mon studio et puis... vous avez été surprise de voir tant de cassettes dans une mallette. Hein. Et j'ai aussi le poste, hein, il est là pour passer mes cassettes. Hein. Et... Oh, c'était formidable.
Et Maria, est-ce que vous avez un mot à dire sur les ateliers ?
Les ateliers sont formidables. Ça m'a, j'ai pu m'enrichir, disons.
Est-ce que vous avez continué à y penser après ?
Oui.
Comment est-ce que ça a infusé dans votre vie ?
Ça m'a donné envie de continuer. J'ai trouvé ça tellement bien. C'est tellement beau. Je trouve que ça nous passe le temps et puis on se retrouve. C'est formidable.
Je dirais même que Maria nous a fait la surprise le jour de la scène ouverte. On est tous tombés comme ça. Elle a dit ben « Moi, j'ai envie de vous chanter une chanson. »
Qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Est-ce que vous vous souvenez de la chanson ? La 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 la. La 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 la.
La 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 la.
Et donc je rajouterai, c'était la richesse de la scène ouverte et de la surprise. Ça terminait bien, c'est la séquence en plus des trois semaines, c'était juste à la fin. Et on a eu la chance aussi d'avoir des gens des ateliers de Médicis qui étaient là et qui ont bien participé. Et bon, ça terminait bien, c'est la séquence en plus des trois semaines, c'était juste à la fin. Et on a eu la chance aussi d'avoir des gens des ateliers de Médicis qui étaient là et qui ont bien participé. Et toutes ces belles histoires que vous avez raconté, mais aussi l'importance des chansons d'amour. Et il y en avait des chansons d'amour.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les chansons d'amour, par exemple, ou sur l'atelier et l'expérience avec Nina?
Moi, j'ai pas entendu beaucoup de chansons autrefois. Alors, c'était que je me souviens, c'est quand on allait à la foire exposition, on écoutait les chanteurs sur le. Sur le boulevard de la Liberté. Et c'est comme ça on retenait certaines chansons qui nous plaisaient, que c'était Luis Mariano, Tino Rossi, des choses comme ça, quoi. Les anciennes chansons. Moi et mon père, on aimait ça, puis c'est tout. Mais on n'avait pas de poste, on n'avait rien, rien, rien. On n'entendait rien autrement.
J'en chantais une, hein. Je suis venue, c'est bonjour dans ta vie. Tout simplement, et tu fis naître en mon âme ravie l'enchantement. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte, sans murmurer, car je ne puis toujours sous ton étreinte que t'adorer. Je me fais dans tes bras si petit, si petit, oh mon amour.
Merci à vous tous. Pour moi, c'était du vrai bonheur, parce que déjà, c'était nouveau, c'était la première fois, et j'ai eu la chance d'avoir les super conditions, en fait, pour créer. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune artiste, bah, c'est toujours... quand on a un projet en tête, il faut trouver le... Enfin, voilà, se trouver le temps, il y a toujours le stress de travail, de se financer, etc. Donc là, c'était des vraies conditions en ayant du temps, en fait, parce qu'ayant eu de l'argent, ça permettait d'avoir le temps, tout simplement. Et ce qui était génial, c'est au-delà... Enfin, déjà, d'avoir passé vraiment des super moments. Et le montage, pour moi, c'était vraiment un pur plaisir, parce que du coup, je revivais en boucle tous ces bons moments. Et ça, c'était aussi vraiment tout aussi chouette. Et puis, je suis aussi vraiment très contente de... j'aime en fait les voix aussi des, qu'on entend un peu, qu'on entend moins, d'avoir toutes les voix, une personne qui est pas là. Et c'est vrai, quand je l'ai interviewée, quand je lui ai demandé si elle était intéressée pour participer, elle me dit oui. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'elle a une difficulté d'élocution. Et je ne m'étais pas du tout posé la question de « Ah, comment je vais faire ?» etc. Et je n'avais pas trouvé la solution même avant de commencer l'entretien, finalement, quand je suis arrivée chez elle. Et finalement, je me suis dit « Ah ben non, mais c'est vraiment important aussi d'avoir toutes ces voix, toutes les voix aussi qui ont des difficultés d'élocution. » Et moi-même, au montage, je me dis « Ah ben non, je vais... » Ah, parce que du coup, je re-répétais en fait sa réponse. Et après, je me dis non, mais même au montage, en fait, de couper un peu plus, moi qui répète, et de me dire, c'est aussi c'est un apprentissage de l'oreille, en fait. Et donc, c'était important c'est important pour moi. Donc, je suis contente de l'avoir fait.
Je voulais remercier Nina surtout, parce qu'elle a passé des soirées chez elle pour faire tout ce travail. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment formidable.
Merci à vous.
C'est la fin de la saison pour Gymnastique Sonore. On se retrouve en septembre dans le monde d'après. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le site canalb.fr. Et pour plus d'informations sur notre asso Bande Magnétique, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.